Très heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager autour de ce thème, un thème très intéressant, le disciple et l'argent, parce que, vous le savez, le thème de l'argent, finalement, est très important, c'est un thème omniprésent. Il est rare de voir un film qui ne parle pas d'argent, il est rare de voir une histoire dans un roman qui ne parle pas d'argent. L'argent fait partie de la vie. C'est même des fois le thème d'émissions entières, comme par exemple Cash Investigation ou Capital, où l'argent en soi est déjà le thème de l'émission. Et c'est aussi un thème que l'on retrouve dans plusieurs chansons. Alors, on va juste écouter deux petits extraits de chansons qui un peu à la gloire de l'argent, on pourrait dire. Vous reconnaissez ? Voilà, j'ai besoin d'un dollar. Un dollar, c'est ce dont j'ai besoin. Et voilà une autre chanson un peu plus ancienne sur l'argent. Ah, toutes les choses que je pourrais faire si j'avais de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et cela montre bien, ces chansons, que l'argent a une place démesurée. En fait, l'argent peut être une idole, c'est-à-dire un dieu que l'on sert. La société parle beaucoup d'argent, mais l'évangile aussi, les évangiles parlent beaucoup d'argent. Alors, je n'ai pas fait la vérification, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait 288 versets en tout qui parlait de l'argent dans les quatre évangiles, soit environ un verset sur 10. Et nous allons voir aujourd'hui un des passages, nous l'avons déjà lu, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, où Jésus parle de l'argent. Et je vais le relire. Voilà. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ces paroles de Jésus se trouvent dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne. C'est le premier des cinq discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et ce discours indique la manière de vivre du disciple, la manière qui plaît à Dieu. Et dans ce passage précis, nous sommes encouragés à investir dans le ciel. Investir dans le ciel, c'est rechercher le règne de Dieu et sa justice avant tout. C'est en fait se détacher des richesses matérielles pour prioriser le royaume de Dieu. C'est lui obéir dans tous les domaines de notre vie. Et ce texte nous donne trois raisons pour lesquelles nous devons investir dans le ciel. Alors la première raison, c'est que les richesses sont corruptibles, elles sont fragiles, elles vont se détériorer. Et dans l'image qu'emploie Jésus, c'est les mites ou les voleurs qui peuvent enlever ces richesses. Mais nous le savons aussi par expérience, dans notre monde contemporain, la bourse est très fluctuante et on peut se retrouver d'un jour à l'autre avec moins d'argent, on voit que les richesses sont fragiles. Mais c'est pas seulement qu'elles sont fragiles, c'est qu'aussi, elles ne durent pas. Une autre manière de voir qu'elles peuvent être fragiles, c'est que on peut remarquer que la recherche effrénée de richesses souvent aussi provoque une dégradation de la nature qui amène une angoisse générale et qui fragilise donc la société. Mais ce que je disais, c'est en plus de leur caractère fragile, elles sont éphémères, elles ne durent pas. J'aime bien cette expression qui dit « la dernière chemise n'a pas de poche ». C'est-à-dire la chemise avec laquelle on va être enseveli, eh bien, on n'a pas de poche, on pourra rien emporter avec nous au-delà de notre mort. Et donc, quelque part, les richesses sont limitées dans le temps, puisque avec notre mort, ben, nous ne pourrons pas les emmener. Et Jésus dit quelque chose dans ce sens-là, dans une parabole que l'on trouve dans Luc 12, les versets 15 à 21, je vais la lire rapidement. Puis Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car l'envie d'un homme ne dépend pas de ses biens, quand bien même il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Il raisonnait en lui-même disant « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas assez de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, je construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et malheureusement, je connais une histoire qui illustre très bien cette parabole de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sans s'arrêter et 2 ans après la retraite, un cancer foudroyant l'a emporté. Il n'a pas pu, comme cet homme de cette parabole, profiter de toutes les richesses amassées pendant sa vie. Notre société résonne comme ça, comme l'homme là dans cette parabole qui se parle à lui-même et qui dit « repose-toi, mange, bois, réjouis-toi ». C'est un petit peu cette idée de carpe diem, cueillir la vie telle qu'elle est dans l'instant présent. Mais le croyant n'est pas dans cette optique. Lui, il vit à la lumière de l'éternité. Il croit à la résurrection. Et donc, pour lui, il n'est pas dans cette optique de profiter de l'instant présent parce que cet instant, ben voilà, va disparaître. Le chrétien, lui, vit à la lumière de l'éternité. Et 1 Corinthiens 15, 32 nous dit « Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Carpe diem. Mais, comme les morts vont ressusciter, nous avons une espérance qui nous permet de considérer les choses à la lumière de l'éternité. Nous croyons à la résurrection, donc nous ne vivons pas seulement pour ces quelques années sur terre. Et j'aimerais pour cela illustrer le propos avec une illustration que je reprends de Francis Chan, un prédicateur et auteur américain. Alors peut-être vous l'avez déjà vu cette illustration. C'est comme si, vous voyez là toute cette pelote, là, ça désigne notre vie. Hein. Donc voilà, notre vie c'est très long. C'est-à-dire que en fait notre existence sur la Terre c'est juste ce petit bout-là. Hein. Vous voyez, c'est ce petit bout-là. Et souvent on vit juste pour ce petit bout-là, en oubliant que la vie après elle continue pour l'éternité. Et parfois dans notre folie on se dit si ça, c'est toute ma vie, pendant cette partie-là, jusqu'ici, je vais travailler comme un fou pour accumuler énormément d'argent, comme ça, oh là, pendant toute cette petite partie, ah là, je vais en profiter, je vais me reposer, je vais voyager, etc. Mais on oublie qu'on ne vit pas que sur ce petit bout de ficelle, mais qu'on vit pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Et dans notre manière aussi de gérer l'argent, pensons que nous vivons à la lumière de l'éternité. Le proverbe 3, versets 13 et 14, dit Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Et donc, avec la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, nous avons accès à cette connaissance, à cette sagesse au travers de Jésus-Christ. Et donc, ne perdons pas nos efforts pour des choses qui sont moins précieuses que cela. Alors, on peut se poser cette question à la lumière de l'éternité. Est-ce que je ne vais pas regretter telle ou telle dépense? À la lumière de l'éternité, puisque je ne vis pas juste pour ce petit bout de ficelle, mais pour toute l'éternité, est-ce que je ne vais pas regretter telle ou telle dépense? Et dans un instant, nous allons regarder un extrait d'un film. C'est La Liste de Schindler. Je ne sais pas si vous avez vu ce film magnifique qui parle en fait de Oskar Schindler, qui était un industriel allemand, qui en fait achetait, entre guillemets, avait monté une combine, il achetait des juifs pour son entreprise, mais en fait c'était pour leur éviter d'être envoyés dans des camps de concentration. Et donc il monte tout un système quand il s'aperçoit que en fait les juifs sont exterminés, donc il prétend qu'il en a besoin pour son entreprise, et donc il dit non, il faut me les envoyer, et il les rachète pour pas qu'ils aillent au camp de la mort. Et à la fin de ce film, il y a une scène qui m'a toujours bouleversé, et puis c'est ce que je vous propose de regarder dans un instant, où en fait Oskar Schindler se rend compte qu'avec son argent il aurait pu encore faire plus. Et donc, vous connaissez, ceux qui ont vu, on va regarder la scène dans un instant. Et puis après, on pourra essayer de voir comment, bien sûr, c'est pas du tout la même situation, mais comment, avec notre argent aussi, on peut se dire, est-ce qu'à la fin de ma vie, j'aurai des regrets? Est-ce qu'à la lumière de l'éternité, j'aurai des regrets de la manière dont j'ai utilisé mon argent? Donc, je vous propose de voir cette scène très, très, très émouvante qui se trouve à la fin du film. Vous voyez les regrets de cet homme qui pourtant a fait déjà beaucoup pour sauver des gens et qui se dit, mais est-ce que j'aurais pas pu faire mieux encore? Alors bien sûr, toute proportion gardée, toute comparaison aussi gardée, mais on peut quand même se dire, est-ce que à la lumière de l'éternité, on va pas regretter aussi certaines dépenses qu'on a fait dans cette vie? Donc la première, et en même temps, quand je dis toute proportion gardée, quand il s'agit du salut éternel de quelqu'un, la proportion est peut-être même dans l'autre sens que ce que l'on pense. Hein. Mais bon, c'est difficile à mesurer. On va parler maintenant du deuxième point, les richesses sont corruptibles. Ça, c'était le premier point qui nous poussait à investir dans le royaume de Dieu. Et le deuxième point, c'est les richesses sont corruptrices aussi, c'est-à-dire qu'elles peuvent inciter au mal. Et donc, dans le texte, c'est aussi la notion des voleurs qui sont là et qui veulent voler les richesses acquises. Mais on peut remarquer que les richesses sont corruptrices non seulement pour les gens de l'extérieur qui voudraient les acquérir, mais aussi pour nous-mêmes, pour celui qui les possède, la richesse peut aussi corrompre le cœur. Et là, c'est intéressant de lire la fable de Jean de La Fontaine, du savetier et du financier. Alors, je ne vais pas vous la lire là, mais en fait, je la résume. C'est un savetier, donc quelqu'un qui fabrique des savons, qui vit très modestement, qui reçoit de la part d'un financier une somme d'argent, et à tel point qu'il n'endort plus, parce qu'il est tellement angoissé que quelqu'un vienne la voler ou tout ça, et ça le travaille tellement que finalement, la richesse qu'il a reçue... Pardonnez-moi. À la fin, eh bien finalement, il la rend carrément parce que ça travaille tellement son cœur, il endort plus. Alors il décide de la rendre. Donc la richesse peut aussi corrompre celui qui la possède. Et là, dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 9 à 10, nous avertissent vraiment sur ce côté-là. Donc l'apôtre Paul dit « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent, en effet, est la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Intéressant ces deux versets de l'apôtre Paul qui montrent que la richesse peut aussi être corruptrice pour celui qui la possède. Eh ben, merci beaucoup. Et on peut en même temps, dans ce même thème, réfléchir à nos choix de vie. Et parfois, certains choix de vie, certains choix de carrière peuvent aussi nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. En fait, souvent, nous planifions notre vie comme si nous allions toujours gagner plus, avec l'avancement, avec une meilleure place dans l'entreprise. Et si Dieu avait d'autres plans pour nous, est-ce qu'on serait d'accord de peut-être passer à 80% pour avoir plus de temps, pour servir les autres, pour servir le monde ou pour servir l'Église ? Cela dépend de l'appel, de la conviction de chacun, des dons de chacun. Mais parfois, nos choix de vie peuvent être aussi un obstacle, et nos choix de vie sur le plan financier peuvent aussi être un obstacle à l'appel de Dieu. Donc il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Je me souviens, quand j'ai quitté mon travail de prof de maths pour faire d'abord des études de théologie, ben il y a mon collègue là-bas qui... qui comprend pas pourquoi on peut quitter un si beau métier. Eh ben, on faisait du covoiturage avec ma femme, et puis derrière on avait une dame qui disait ah mais vous êtes fonctionnaire, ah mais c'est super, moi je rêverais d'être fonctionnaire, c'est bien, c'est tranquille, on a la sécurité de l'emploi, on est sûr qu'on va être payé à la fin du mois, tout ça. Et puis moi je disais oui mais je vais arrêter tout ça. Donc c'est vrai que mais c'est avec une grande joie, mais il faut réfléchir, est-ce que aussi certains choix de vie ne sont pas aussi un obstacle, et certains choix financiers que l'on fait ne sont pas aussi un obstacle à l'appel de Dieu. Ça veut pas dire que voilà on doit tous arrêter notre travail ou le réduire, mais il faut réfléchir aussi dans la manière dont on va conduire notre vie à ces choses-là. Cela dépend voilà de l'appel que Dieu met sur notre vie, de nos dons, et voilà, de ce que l'Église aussi reconnaît en nous. Et puis, troisième raison apportée dans ce texte pour investir dans le royaume de Dieu plutôt que dans notre propre confort, c'est que les richesses orientent notre cœur. Donc, c'est pour ça qu'il monte vers le haut. Alors, il y a cette phrase curieuse de Jésus qui dit « Là où est ton trésor ?» Là aussi sera ton cœur. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais est-ce que Jésus ne s'est pas trompé ? Est-ce qu'il voulait pas plutôt dire, ben là où est ton cœur, là aussi, tu vas mettre tes finances. Mais Jésus, il dit le contraire, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'inverse ? Et en fait, en réfléchissant, c'est vrai, c'est ce que je dis Jésus là, ça s'expérimente dans la vie. Et c'est une réalité. Là où nous investissons, là aussi nous mettons notre cœur. Et le cœur, dans le sens biblique, c'est pas uniquement les sentiments, mais c'est aussi notre volonté, notre raison, notre orientation intérieure. On pourrait dire c'est l'être intérieur. Et Et je me souviens, par exemple, c'était l'année dernière, j'avais acheté un ordinateur assez cher, et comme il a eu un problème, comme j'avais mis mon trésor dedans, eh ben, ça m'affectait beaucoup. On peut le voir, par exemple, avec d'autres choses. Un bijou qui a coûté très cher, ben, si on le perd, eh ben, parce qu'on a mis notre trésor dedans, quelque part, on a mis une partie de notre cœur aussi dedans. Ou même, de manière plus pragmatique, si on paye un club de sport, eh ben, on va y aller. Si on paye pas, on va pas y aller, parce qu'on se dit, bon, j'irai la semaine prochaine. Mais si, ah non, j'ai payé, alors je vais y aller. Quelque part, là où on investit, là aussi on va s'engager. Et on peut le voir, par exemple, avec des missionnaires qui nous envoient leurs lettres de nouvelles. Ben, quand on les soutient, ben, on va lire leurs lettres de nouvelles. Sinon, souvent, ben, on dit, oh, j'ai pas le temps, je lirai plus tard. On voit que c'est une réalité. Là où on investit, finalement, là aussi va suivre notre intérêt, notre volonté. Eh bien, si cela est une réalité, si là où est notre trésor, là aussi va notre cœur, alors donnons à Dieu. Si nous voulons plus aimer Dieu, alors donnons plus à Dieu. Si nous voulons plus aimer les migrants, alors donnons plus aux migrants. Et si nous voulons moins aimer la télé, eh bien, investissons moins dans notre équipement multimédia. Parce que là où on va investir, là aussi, on va mettre notre cœur. Il est donc très important de bien gérer son argent. Et là, pour de manière très pragmatique, je vous donne un conseil très simple pour avoir une vie saine et biblique dans la manière de gérer son argent. C'est, on pourrait dire, la méthode des trois enveloppes. Alors la première enveloppe, c'est les frais courants. Il faut payer le loyer, les factures, les assurances, etc. Et on pourrait lire l'exhortation dans 2 Thessaloniciens 3, les versets 10 à 12, où l'apôtre Paul dit « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. » Donc, une des sources de revenus, c'est le travail. Hein. Alors, comme nous sommes aujourd'hui dans un monde compliqué et quelque part aussi marqué par le péché, malheureusement, le travail n'est pas toujours accessible à tout le monde. Mais la règle générale, c'est de travailler pour manger son propre pain. Donc, nous apprenons que l'argent que nous gagnons doit servir à subvenir à ses besoins. La deuxième enveloppe, donc la première enveloppe, c'était les frais courants, la deuxième enveloppe, c'est les dons. Éphésiens 4, 28 nous dit « Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Le don, donc c'est la deuxième chose qui pourrait figurer donc dans notre budget, hein, si on classe par grande catégorie. Et finalement, la troisième enveloppe, ça pourrait être l'épargne, pour ne pas être pris de court en cas d'incident. Puisque Proverbe 22, 7 nous dit « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Donc, il faut faire attention à l'accumulation des crédits. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont inévitables. Par exemple, pour acheter un appartement ou une maison, on peut rarement l'acheter sans emprunt. Mais si on accumule un certain nombre de crédits, d'emprunts, au bout d'un moment, on peut se retrouver finalement le couteau sous la gorge, la tête sous l'eau, parce qu'on n'arrive plus à tout payer. Donc c'est bien, quand on a un petit peu d'argent, de prévoir une enveloppe épargne en cas de besoin, quand il faut changer de voiture, par exemple, quand il faut changer de machine à laver, etc., de pas être pris de court pour ne pas finalement être sous l'esclavage d'une quantité d'emprunt qui ferait qu'on devient finalement esclave de celui qui prête. Alors après, à chacun de trouver l'équilibre entre ces trois enveloppes. Hein. Je recommande pas de faire un tiers, un tiers, un tiers, je pense que ce serait pas réaliste. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait ces trois enveloppes dans chacun de nos budgets, dans la manière de gérer l'argent, pour avoir une vie saine, économiquement parlant, et qui prend en compte donc aussi le don par rapport au fonctionnement de l'Église, mais aussi le don par rapport à ceux qui sont dans le besoin et par rapport à la mission. Donc les frais courants, les dons et l'épargne sont des choses qui devraient figurer dans tous nos budgets, sans négliger l'une ou l'autre, au risque finalement de se retrouver dans une situation difficile. Donc on pourrait résumer en disant que les richesses sont corruptibles, elles vont se dégrader, elles sont éphémères, et nous vivons à la lumière de l'éternité. Elles sont corruptrices, elles ont aussi cette capacité finalement de, comme le disait l'apôtre Paul donc dans ce que j'ai lu là en 2 Timothée 6, ou 1 Timothée 6, voilà, de corrompre notre cœur et peut-être même de nous éloigner de la foi. Et en fait, elles orientent aussi notre cœur. Donc nous avons toutes les raisons pour investir dans le ciel, pour donner la priorité à Dieu dans tous les domaines de notre vie et aussi donc dans le domaine économique. Recherchons le royaume de Dieu et sa justice plus que l'argent qui détruit et qui ne dure pas. Utilisons nos richesses pour l'avancement du royaume de Dieu. Je finirai avec cette citation très très cash, si je peux m'exprimer ainsi, de Jésus. Quelques versets plus loin, Matthieu 6, 24, il dit « Personne ne peut servir deux maîtres, ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Merci pour votre attention.